Voilà, l'autre jour, je me suis allé promener dans le bois des Cinq Tailles. Et comme aujourd'hui, il faisait tellement beau, il y avait le soleil qui brillait. Et c'est la saison d'automne. Donc on voit toute la beauté de ces feuilles qui tombent. Et je méditais un peu sur la beauté de ces feuilles et je pensais à nos saisons différentes dans la vie, dans nos familles, dans notre travail, dans toutes sortes de choses. Le temps passe, il y a la jeunesse, le printemps, il y a les étés ensoleillés. Il y a les hivers froids et il y a les automnes où les feuilles tombent. Et je méditais tout ça et j'imaginais la feuille. Hein. Il y a un moment où la feuille, elle est belle, hein, elle est verte. Elle dit « Coucou, je suis ici, je brille, j'attrape le soleil, je nourris, je fais beaucoup de choses. » Et c'est super d'être une feuille verte. Hein, quand tout le monde te voit, et voilà, coucou, je suis une feuille verte. Mais après, il y a l'automne. Hein, il y a l'automne. Et les feuilles, elles ne sont pas éternelles. Et bon, la vie est éternelle, mais les feuilles, des expressions quelquefois de nos saisons ne sont pas toujours éternelles. Il y a un temps pour toutes choses sous le soleil. Et je voyais, je dis, mais c'est quand même très joli de voir que cette saison d'automne, c'est une saison de lâcher prise. C'est une saison de lâcher prise. Et j'imagine la feuille qui reçoit un peu un vent d'automne et ça tombe. Et je vois qu'il y a même en tombant, c'est très beau. Ça tourne et après ça tombe. Et ça devient anonymement l'humus d'une nouvelle saison. Et c'est très beau par terre, hein, ça fait un tapis doré, coloré, rouge, orange, magnifique. Et il y a un temps pour tomber, il y a un temps pour lâcher prise. Et quelquefois, il y a des feuilles qui s'agrippent à l'arbre, hein. Ils ne veulent pas tomber en automne. Il dit, non, c'est ma branche, j'y reste, je ne lâche pas prise. Et après, ces feuilles, au lieu d'avoir la beauté, tu sais, ces feuilles doivent attendre un vent beaucoup plus cruel d'hiver. Et si on ne tombe pas, si on ne reconnaît pas la belle saison, on s'accroche, et après, la feuille devient toute noire. Ça perd toute la possibilité de nourrir même la nouvelle saison. Ça dessèche, ça sèche sur une branche même. Et après, il n'y a que le triste enterrement de l'hiver. Et ça ne passe pas l'hiver. Hein. C'est très dur de passer l'hiver. Et donc Dieu, j'ai dit ce matin, j'ai appris de tout cela qu'il faut accepter nos saisons. Et je pense que la feuille qui tombe en automne, c'est une image de la beauté de lâcher prise. Et il faut reconnaître quand il faut lâcher prise, dans une relation par exemple. Nos relations ne sont pas toujours éternelles. Nos relations ne sont pas toujours avec des, il y a des amitiés. Moi, je sais que j'ai eu des amitiés qui étaient très intenses. Mes collègues, tout ça, et maintenant je ne les connais plus, ces gens. J'ai un grand souvenir, j'ai une grande nostalgie, mais il y avait un temps pour la fin. Je vois avec. Je suis assez âgé d'avoir vécu avec des mouvements missionnaires où j'ai investi toute mon énergie, toute ma force, où je brillais sur l'arbre. Et après, il y a une fin de saison. Oh, combien c'est dur quelquefois de lâcher prise. Combien c'est dur de dire voilà, c'est fini. Et quelquefois, par mégarde, j'ai attendu trop longtemps et j'ai dû avoir le vent froid de l'hiver qui m'a fait tomber. Et ça, c'est beaucoup, beaucoup moins comment est-ce que je peux dire, Dieu utilise ça, mais c'est mieux de tomber en automne et de reconnaître les saisons naturelles que Dieu donne. Et donc je dirais juste ce matin, il faut accepter nos saisons, il faut accepter et reconnaître nos saisons de vie. Et chaque saison est une belle saison. Si vous êtes dans le printemps, alléluia. Et il ne faut pas juste être jeune pour être dans le printemps. On peut être dans le printemps à 60 ans. C'est juste que Dieu ouvre une nouvelle saison, un nouveau projet. Et même quand on est jeune, on peut être dans un hiver. Ce n'est pas une question juste d'âge. C'est une question du projet spirituel que Dieu place devant toi. Et donc, quand tu as une feuille qui tombe, quand il y a une relation qui s'arrête, quand il y a une œuvre qui s'arrête pour toi, quand il y a une fin de saison, il faut faire quelque chose. Il faut pleurer. Il faut pleurer. Et il faut vraiment pleurer. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire des grandes larmes de crocodile devant tout le monde, mais il faut quand même pleurer. Il faut accepter que parce que j'ai aimé, ça me fait mal que ça arrête. Parce que j'ai aimé. Les larmes sont un signe d'amour, tu vois. Et donc c'est bien qu'on ait des larmes quelquefois aux yeux. Et je vais vous dire quelque chose, nos larmes sont réelles parce que nos fins de saison sont réelles. Dans la vie, toute personne, qu'il soit chrétien, non chrétien, il va vivre des fins de saison. Il va être confronté même à la mort d'un être cher. Il va être confronté à la fin d'un boulot. Il va être confronté à même la fin d'une relation quelquefois. Ça arrive, et ça arrive beaucoup dans notre société. On ne peut pas juste faire l'autruche et dire non, on vit dans un monde où il n'y a pas de fin. Si, non, là, ça fait partie de la vie. C'est imprégné dans la nature même. C'est imprégné dans la nature. Et quand nos larmes doivent être réelles, et il y a quelqu'un qui accueille nos larmes. Et ça, c'est magnifique. Il ne faut pas avoir honte de nos larmes. Il ne faut pas avoir honte de dire, voilà, je pleure. Voilà, parce que c'est la fin d'une saison. Et il y a quelqu'un qui nous accompagne dans nos larmes. Et ça, c'est peut-être la gloire du christianisme. Parce que dans toutes les autres religions, leur Dieu ne pleure pas, tu vois. Leur Dieu ne pleure jamais. Leur Dieu ne pleure jamais, hein. Ils sont que sur le grand trône de puissance, que ça soit dans l'hindouisme, toute leur déité. Ils sont quand même, ils ont toutes les capacités, sauf la capacité de pleurer. Et tu vois le grand Dieu de l'islam, le grand Dieu qui a tous les droits, sauf le droit de compassion et de pleurs et de larmes. Et moi j'ai besoin, et ce monde a besoin, d'un Dieu qui pleure avec nous. Nous avons besoin d'un Dieu qui pleure avec nous. Et voici, il y a une histoire en Jean chapitre 11. Et c'est chapitre 11, voilà. Et verset 35. C'est le verset le plus court dans toute la Bible. Donc même si vous ne connaissez pas la Bible, même si vous n'avez pas l'habitude de méditer la Bible, je vous donne juste deux mots que vous pouvez apprendre à cœur. Vous pouvez apprendre ces mots par cœur. Et voilà, ces mots vont m'accompagner. Vous savez, c'est pas dur, hein. Même ceux qui n'ont pas l'habitude d'apprendre des versets bibliques, vous pouvez apprendre ce verset biblique. Et c'est quand Jésus se trouvait devant la fin de saison de Lazare. Et devant cette fin de saison de Lazare, c'était peut-être symbolique de toutes nos fins de saison. Et nous lisons tout simplement dans Jean chapitre 11, verset 35, Jésus pleura. C'est profond. Les choses les plus simples sont les choses les plus profondes. En croyant que Jésus est l'incarnation de Dieu, l'incarnation du pleur de Dieu, une des premières révélations de Dieu, et quand il se révèle à Moïse, il dit « Je suis le Dieu compatissant ». Et le mot pour compassion, là, qu'il utilise, c'est racham. Ça parle de la matrice d'une femme. Racham, racham. Ça parle de toute l'identification, de toute cette capacité de souffrir, parce qu'on aime donner la vie. Donc là, c'est pas un Dieu de compassion, c'est pas juste en théorie. Et là, Jésus, devant le tombeau, devant la fin, Jésus pleura. Jésus pleura. Ça, ces deux versets, ces deux mots nous donnent la capacité de pleurer aussi. Il y a des hommes qui ne pleurent jamais. Oh, je pleure jamais. On a été enseigné de ne jamais pleurer, d'être fermé comme une huître. Nos vies émotionnelles sont tellement bloquées, fermées. Et on vit dans un refus, un déni des fins de saison. Il y a des gens qui vivent dans un déni ou dans une... ils ne peuvent pas lâcher prise. Et quelquefois, les larmes, ça nous aide à lâcher prise. Parce que quand les larmes sont réelles, nos fins de saison sont réelles. Il dit, mais c'est dur, oui, c'est dur. Mais Jésus pleura. Jésus pleura. Et donc Jésus pleura. Dieu pleure avec nous. Cette présence des larmes est très réelle dans notre histoire. Et donc, verset 36, les Juifs dirent, voyez comme il aimait. Oh, merci Jésus. C'est pourquoi nous pleurons, c'est parce que nous aimons les gens. Pourquoi nous pleurons? C'est parce que nous aimons les gens. Ça nous fait mal quand c'est la fin d'une relation, quand c'est une séparation, quand on est devant quelque chose, nous pleurons. Oh non, moi je ne pleure jamais. Non, Dieu, il va arranger tout. Mais non, mais il ne faut pas faire un raccourci, tu vois. C'est la tendance évangélique triomphaliste. On veut faire un raccourci. Oh, da, 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 c'est triomphé, c'est pas grave et tout ça. Et si on fait trop, si on saute trop vite dans cette saison de victoire, tu vas pas vivre une vraie fin. Et tu vas avoir toujours, excusez mon français, le cul entre deux chaises. Un peu, on ne sait pas si je dois pleurer, si je dois rire, si je dois être avec la foi victorieuse ou si je dois être triste et vaincu. Et donc, c'est très difficile émotionnellement. Et donc, on voit qu'il y a un temps pour pleurer. Bas, c'est réel, ce coup dur. Lazare est vraiment dans le tombeau. Voyez combien il aimait et je pleure. Et donc nos larmes sont réelles, car des fins de saison sont réelles. Mais il ne faut pas que j'arrête là quand même. Parce que nos larmes sont là aussi pour enfanter un nouveau commencement. Tu sais, les feuilles par terre sont là pour préparer la résurrection d'une nouvelle saison. Et donc c'est un tapis d'espérance. C'est anonyme. C'est coloré, c'est beau. Mais ça prépare, vous marchez sur les arbres futurs. C'est dur, il faut avoir beaucoup de foi. Mais quand vous pleurez, c'est vrai, la fin de saison. Mais vos larmes préparent et enfantent une nouvelle saison aussi. Et je ne sais pas si je suis assez sensible à mon âme quelquefois pour discerner quand je pleure la fin et quand c'est un petit déclic pour mes larmes enfantent l'avenir. C'est pas si, vous pouvez faire ça vous-même. Vous pouvez dire, voilà, là, je pleure vraiment la fin. Voyez, j'ai tellement aimé et c'est fini. Mais, et on lâche prise, on fait le deuil, tout ça. Et après, il y a un moment où tu pleures et tu dis, ah, mais il y a une autre odeur dans cette larme-là. Mais bon, quelquefois, il y a des fins de saison qui durent des années. Il y a des fins de saison qui durent des années. Petite tristesse-là qui doit faire son petit chemin en eux, ou son long chemin. Mais il y a un moment, il y a toujours un moment quand tu vas voir, ah là, je suis en train d'enfanter une nouvelle saison maintenant. Hein, j'ai pas une loi pour ça. Et quelquefois, on ne sait pas. Mais ce n'est pas grave, pleure quand même. Parce que je peux vous assurer que vos larmes vont enfanter une nouvelle saison. Et c'est ce qui s'est passé très rapide dans cette histoire. C'est beaucoup moins rapide pour nous. Il faut, entre les larmes de Jésus, c'est très rapide. Il pleure dans la fin de Lazare. Et après, ses larmes enfantent un miracle. Ses larmes enfantent un miracle. Regarde ce qui suit. Et quelques-uns d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne meure pas ?» Tu vois, c'est la tendance triomphaliste humaine. « Je ne veux pas accepter cette fin de saison. Jésus, tu aurais dû prier pour qu'il ne meure pas !» C'est la tendance humaine. Jésus, tous les coups, paf, je prie pour la guérison, paf, les hôpitaux sont vides, on vit dans une illusion. Il y a des livres qui sortent, qui parlent de ça aujourd'hui. À chaque coup de bâton, tu guéris, tu fais. Et finalement, bien sûr, je crois là, au miracle. Mais tu peux pas juste dire, voilà, Lazare est mort, Jésus était dans l'échec, quoi. Quelle accusation, d'un côté, au milieu de toute cette tristesse de Jésus. Il a encore une accusation religieuse. Il y a encore une accusation, mais tu aurais dû faire quelque chose. Ça aurait dû mieux. On aurait dû garder la feuille tellement jolie sur la branche. Mais Dieu, il ne va pas garder tes feuilles sur la branche. Il respecte tes saisons. Il y a une lâcher prise. Et on voit qu'il y a une tendance religieuse de manipuler, de dire, mais à Jésus, tu aurais dû fausser les saisons. Tu aurais dû faire quelque chose. Mais Jésus, non, il savait qu'il devait laisser faire. Il savait qu'il devait laisser faire parce qu'il préparait un plus grand miracle. Et je vais vous dire quelque chose. Traverser une souffrance, traverser un coup dur et garder sa foi est un plus grand miracle quelquefois de juste, voilà, ben, le Dieu qui pourvoit à tous nos besoins. Ça, c'est une sorte d'animisme. Qui n'est pas le christianisme. Tu sais, tu vas chez les chamans, tu vas chez les guérisseurs, c'est le Dieu, paf, tu vas être guéri, paf, et tu payes. Tu vas être guéri, ouais, et tu payes. Tu vas être heureux et beau et sans souffrance, ouais, tu payes. Mais moi, c'est pas le christianisme. Le christianisme passe par les automnes, par une semence qui tombe en terre quelquefois, des échecs, des tragédies, mais c'est pas la fin de l'histoire. Mais on doit bien pleurer. Les larmes ne sont pas exclues. Bien sûr, nous serons un jour au paradis où il n'y aura plus de larmes. Mais on n'est pas encore au paradis, frères et sœurs. On n'est pas encore au paradis. On n'est pas encore dans un monde sans larmes. On est bien sur la terre et tu n'as qu'à regarder les actualités et tu n'as qu'à regarder ta propre vie et tout autour de toi pour voir que le monde est quelquefois rempli de larmes. Mais pleure courageusement! Pleure courageusement comme Jésus a pleuré. Et lui, il n'allait pas être manipulé ici. Parce qu'il attendait la saison de la résurrection. Et je peux vous dire, pour chacun qui a dû pleurer amèrement, difficilement, leur fin de saison, qu'il y a toujours, dans l'espérance de l'Évangile, dans l'espérance de Jésus, une résurrection. Il y a toujours un nouveau commencement. Et on voit ça ici. Verset 38. Jésus, frémissant de nouveau en lui-même. Je ne sais pas comment il a fait ça. C'est pas une sorte de frémissement. Vous pouvez imaginer Jésus qui a frémi en lui-même. Je dis, mais Seigneur, dans nos larmes de séparation, qui pleure une fin, il y aura un frémissement quelque part qui va annoncer une nouvelle saison. Quand je priais ce matin, je dis, mais Seigneur, donne-moi à pouvoir partager un frémissement d'une nouvelle saison, peut-être pour certains. Un lâcher prise, mais aussi un nouveau commencement. Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendait au tombeau. C'est une grotte et une pierre était placée devant. Et Jésus dit, ôtez la pierre. Waouh. Ôtez la pierre. Parce que Jésus est plus fort que la pierre. Jésus est plus fort que la mort. Et ses larmes étaient réelles pour la fin. Mais ses larmes préparaient le miracle de la résurrection. Sachez que vos larmes préparent toujours une résurrection. Dans ce monde, c'était la réalité. Dans la géographie, dans le temps et dans l'espace autour de Jésus. Il était quand même Dieu devant un tombeau. Quelquefois pour nous, notre géographie sera future. Ça sera dans le ciel où il y aura la résurrection totale. Mais on peut toujours ôter les pierres par nos larmes. Ôter la pierre. Mais après, on voit qu'il y avait la résurrection. La résurrection de Jésus-Christ. Allez, la résurrection de Lazare. Il y aura toujours une résurrection. Et donc, osons pleurer. Laisse-moi vous donner un autre verset dans le psaume 126. Le psaume 126 et verset 5. C'est intéressant, hein, parce que c'est un psaume où tu lis dans le verset 2. Alors notre bouche riait de joie. Et ouais, donc, larmes, rire, sont jamais trop loin. Ça dépend la saison. Mais regarde le verset 5 et 6. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec cris de triomphe. Alléluia. Alléluia. Sémer. Faut pas passer à côté. Tu sais, tu peux pas récolter sans s'aimer. Je pense qu'il y a les gens, ils écrivent des livres, ils pensent qu'ils vont juste récolter sans semer. Ils pensent que c'est que victoire, gloire et beauté. C'est comme une feuilleton américaine. Hein, tu vois. Amour, gloire, beauté. et à l'avenir, on va enlever la souffrance du christianisme. On va essayer d'enlever une croix. On va essayer d'enlever le train-train ordinaire de construire une église. Dans les hauts et les bas et tout ça. Tiens, ça fait partie de notre vie. Oh non, non, si tu n'as qu'à faire ça, et bah, tu as des millions, tout le monde va sourire. Et bah, d'accord. Fais-le. Fais-le et après, tu écris ton livre. Mais tu sais, j'ai vu quelquefois les gens, ils font des choses là où il y a déjà 80% de chrétiens dans la ville. Oh, on est allé dans la rue, on a prié pour la caissière. Oui, mais elle était déjà chrétienne. Tu sais, tu vas à Bethel, là, il y a 80% chrétiens dans cette ville. Tu vois, c'est bien, c'est sûr que tu vas rencontrer un chrétien dans la rue. Oh, on était dirigé, on a prié pour quelqu'un, il a accueilli notre prière. Va faire ça en France. C'est bien que les gens vont dans la rue, mais soyons réalistes. Mais en France, 0,5% d'évangéliques. Tu vas dire, voilà, je peux prier pour ton frère dans Rome. Gloire à Dieu, il faut se laisser diriger par le Saint-Esprit. Mais ceux qui sèment en larmes, parce qu'il y a une semence qui a été pleurée depuis des années en France, et ceux qui sèment en larmes, il y a une promesse. Moissonneront avec cri de triomphe. Celui qui s'en va en pleurant, quand il porte la semence à répandre, s'en revient avec cri de triomphe quand il porte ses germes. Et donc, pour ceux qui ont vraiment pleuré, il y a une promesse qu'il y aura un fruit futur. Vous allez porter des gerbes. Dans ce monde, peut-être, je l'espère, un peu quand même. Mais je suis sûr qu'à l'avenir, il y aura ceux qui auront des gerbes dans le ciel et d'autres, comme Dieu dit, qui vont faire gerber, pardon. Comme il dit, je vais vous vomir de ma bouche parce que c'était que du bluff. C'était que du bluff. Et on a créé des sectes, où on a créé des trucs, on a écrasé des gens. Mais voilà, Dieu, il va connaître la vraie valeur. La vraie valeur, la vraie valeur. Elle est encore, petit verset, sur la puissance des larmes. Donc si vous pouvez voir en 2 Rois 20, Et c'est la maladie et la guérison d'un roi qui s'appelle Ézéchias. Donc c'est intéressant, hein, parce que la parole prophétique, hein, il y a des grandes questions théologiques soulevées par cette histoire. Deux rois, chapitre 20, pour ceux qui veulent suivre. C'est un roi, Ézéchias, il est malade. Et il dit, il est malade à mort. Oh, c'est pas ce qu'il a attrapé. Et donc, le prophète, et pas n'importe quel prophète, c'est le prophète Ésaïe, hein, c'est quand même... en grade, tu as un grand prophète, hein, il ne se trompe pas, Ésaïe, hein, il a déjà écrit, je ne sais pas combien de chapitres de la parole de Dieu. Et le grand prophète Ésaïe, il va vers Ézéchias, et Ézéchias, il est là. Oh, le prophète, il va avoir une belle parole pour moi. Le prophète, il va avoir une belle parole pour moi. Et donc le prophète arrive chez Ézéchias, ainsi parle l'Éternel. Ah, tu sais, Lille, tout est possible. Ézéchias, tout est possible. Jérusalem, tout est possible. Ézéchias, ainsi vient la parole de l'Éternel. Donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir. Oh, je vais aller dans une autre conférence. Donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir. Et je pense quand il a entendu ça, cette prophétie était vraie. Parce qu'en entendant ça, il est mort. Il est tombé de son arbre, il dit, mince, c'est fini. Je vais mourir. Tu vois? Et donc, quelque chose a eu lieu. Mais après, encore plus rapide que Jésus pleura au tombeau. Voilà, tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et pria l'Éternel. Bon, et donc tu vois, il a fait une grande prière théologique. De grâce, ah, de grâce, quelle belle prière. De grâce, Seigneur. Ouais, ah, j'aime bien ça, c'est très réel. Quelqu'un, on est dans une fin de saison, tu vas mourir, c'est fini. De grâce, Seigneur. De grâce éternelle. Et après, souviens-toi de moi. Et après, il a quand même une autorité, parce que il dit, Seigneur, tu vois, j'ai quand même une autorité morale. Bon, on est sauvé, pas par des œuvres, mais par la grâce. Mais quand tu pries, c'est bien d'avoir un CV. Moi, je te dis, c'est bien d'avoir un CV. Quand tu vas devant Dieu et dis, tu vas mourir, il dit, ouais, j'ai triché, j'ai fait toutes ces choses, je suis un voleur et... Voilà. Non, mais là, c'est bien quand tu... Bon, si c'est ton cas, tu dis, oh, Seigneur, je me repens. Mais Ézéchias, il dit, mais Seigneur, j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité. C'est bien. Il a un peu de force dans sa prière. Et après, fin de verset 3, et Ézéchias répondit des pleurs abondantes. C'est bien. Un roi qui pleure, c'est bien. Il aurait pu tuer Ésaïe. Il aurait pu dire, oh, t'as pas le droit de me parler comme ça. Non, mais il a accepté cette parole et il a pleuré. Et donc, il a pleuré de tout son cœur. Et après, Ésaïe qui était sorti n'était pas encore dans la cour centrale lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée encore. Tu vois, tu imagines? C'est incroyable ce qui se passe ici. Verset 5, retourne dire à Ézéchias, conducteur de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David ton père. Et là, c'est merveilleux. Si vous devez retenir une chose ce matin, c'est paroles maintenant. C'est Dieu qui parle. Peut-être il te parle ce matin. Il te parle, il dit, j'ai entendu ta prière et j'ai vu tes larmes. Wow. Il y a les gens qui disent, Seigneur, je ne sais pas prier. Je ne sais pas prier. Ouais, mais j'ai vu tes larmes. C'est la prière avec des larmes. Même pas toujours des larmes visibles là, mais des larmes. Des larmes, des larmes. J'ai vu tes larmes. Et c'est comme si pour Ézéchias, il a vécu le principe, mais d'un temps tellement rétréci. Il a vécu la fin d'une saison, mince, je vais mourir. Il a pleuré, Et après, boum, la situation change. Il a enfanté une nouvelle saison. On peut dire que les larmes d'Ézéchias ont changé la vie de Dieu. Moi, je ne le vois pas comme ça. Moi, je vois qu'il a juste allé, ses larmes ont enfanté une nouvelle saison. Mais comme Jésus devant le tombeau, c'était tellement rapide, et c'est rapide ici, c'est rapide. Lazare, il est mort, il est vivant. Pour nous, il y a beaucoup plus de temps entre les deux choses, en tout cas pour moi. Quelquefois, je pleure des fins pendant 5 ou 6 ans. Ça fait 8 ans que je pleure la fin d'Horizon, tu vois. Bon, c'était un gros bébé, hein. C'est quand même Château Blanc, tout mon ministère. Ça m'a pris 8 années. Et c'est que maintenant, même avec ce verset, que finalement, je dis, enfin, enfin. Mais j'ai vraiment pleuré. Et après, voilà, j'ai entendu ta prière et j'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai. Oh, merci. Ah, la prière des larmes a une grande efficacité. J'ai vu tes larmes. Et ce qui est super avec cette prière des larmes, c'est que ça sort tout seul. Tu n'as pas besoin de faire une école de théologie pour l'apprendre. Ça sort tout seul si tu te laisses guider par tes larmes. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai le 3e jour. Tu montreras à la maison de l'Éternel. Et après, verset 6, c'est bien pour peut-être ceux qui sont devant une voie sans issue, où ils disent, qu'est-ce que c'est l'avenir pour moi, et tout ça, je ne sais pas, Seigneur. Il dit, j'ajouterai 15 années à tes jours. Moi, je prends cette promesse littéralement pour moi en ce moment. Si vous voulez prier pour moi, je dis, allez, donne à Rob encore une belle saison de 15 années. Qui puisse faire une œuvre pour Dieu, qui va, je ne sais pas ce que c'est en ce moment, mais que ça soit 15 années, j'ajouterai. Et donc je prends ça littéralement. J'ai vraiment reçu ça dans mon cœur comme un nouveau commencement. J'ajouterai. Mais peut-être pour vous ce matin, même si ce n'est pas littéral, j'ajouterai. J'ajouterai. J'ajouterai quelque chose à ta vie. J'ajouterai une nouvelle relation. J'ajouterai quelque chose de nouveau, un nouveau travail, j'ajouterai. D'accord, c'est la fin, mais j'ajouterai. C'est jamais la fin. Même si tu as 99 ans, j'ajouterai. Je suis content que Fernand est ici. Parce qu'il peut ajouter encore le bonheur, encore du bonheur à ta vie. Voilà ce beau sourire. Magnifique. C'est jamais fini. Il faut toujours ajouter. On pleure quelquefois, mais non, pleure, enfante, une nouvelle saison, j'ajouterai 15 années à tes jours, je te délivrerai. Et après, il guérit. Ézéchias, verset 7, Ésaïe dit, prenez un paquet de figues, je vais à Auchan tout de suite, je vais acheter des figues, prenez un paquet de figues. C'est quelquefois, on est quand même blessé profondément par nos fins de saison. Nos cœurs sont tellement déchirés parce qu'on a tellement aimé et c'est fini. Que ça soit humainement, spirituellement ou entre les deux. On est tellement blessé. On est susceptible aussi. Quelquefois, on est faussement blessé, mais on est toujours blessé. Voilà. J'aurais pas dû être blessé. C'est pas aussi grave, tu es d'accord, mais je suis blessé. Tu vois, Et j'aime bien cette image de prendre des figues pour que Ézéchias puisse être guéri pour sa nouvelle saison. Qu'il est guéri de la blessure de tout ce qu'il avait rangé avant. Prenez un paquet de figues. On le prit et on l'appliqua sur l'ulcère. Ouh, des ulcères. C'est pas bon, un ulcère. Mais on a des ulcères intérieurs. Et c'est des ulcères de la faim. C'est des ulcères de la faim d'une saison. Et c'est pour ça qu'il faut pleurer. C'est pour vider l'ulcère. Mais il y a certains ulcères qui sont tellement pénibles que tu as besoin des figues aussi. Donc on applique la figue, un paquet de figues, et on le prie et on l'appliqua sur l'ulcère. Et Ézéchias resta en vie. Enfanté, une nouvelle saison, bravo, encore 15 années. Et c'est vrai que souvent on parle d'Ézéchias, on dit, oh, il a mal fait parce qu'il a invité les Babyloniennes et tout ça. C'est vrai, vraiment à la fin. Et ça, c'était quand même la volonté de Dieu de juger Israël. Mais avant ça, il faut lire, parce que les gens, ils oublient de lire. Il a construit des aqueducs, il a fait beaucoup de bien pour le peuple, il a fait un tas de choses dans ces 15 années. C'était pas juste, oh, il aurait pas dû, tu sais, il y a toutes sortes de théologies qui tournent autour de ce passage. Mais moi, je veux vous dire, c'est pas la fin de votre vie, c'est pas la fin de votre histoire. Même si vous avez vécu une tragédie, pleure un bon coup et enfante un nouvel avenir. Alléluia. Et on va finir en appliquant des figues. Et le grand paquet de figues, d'accord, c'est une image du Saint-Esprit. Et vous connaissez tous Galates 5. Hein? Parce que les figues, c'est quoi? Allez. C'est un fruit. Les figues, c'est un fruit. Et Dieu, ce qu'il veut appliquer sur nos vies, c'est le fruit de l'Esprit. Il veut appliquer un grand paquet de figues. Mais le grand paquet de figues aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit qui est appliqué à nos ulcères. C'est le caractère de Jésus. C'est le pardon, c'est la beauté de Jésus qui est appliquée à mon cœur blessé. Et là, Galates 5, 22, « Mais le fruit de l'Esprit est amour !» Oh Seigneur, je veux apprendre à aimer de nouveau. Je veux apprendre à aimer de nouveau. Ouais, je ne veux plus aimer, il m'a tellement cassé, il m'a tellement fait des horreurs. Oh, c'était trop dur d'aimer. Je ne peux plus aimer l'Église, je ne peux plus aimer la mission, je ne peux plus aimer Dieu même. Je suis trop cassé par cette fin. D'accord, pleure un bon coup, crie un bon coup. Mais enfante aussi une nouvelle saison. Oh, ces figues, le fruit du caractère de Jésus, le Saint-Esprit va te redonner un cœur nouveau qui aime. Parce que toute nouvelle saison doit être enfantée par l'amour. On n'est pas des fonctionnaires. On est des gens qui aiment. On est animés par l'Esprit de Dieu qui est un esprit d'amour. Applique l'amour. Mais le fruit de l'Esprit, la figue de l'Esprit, le paquet de figues, parce qu'il n'y a pas juste une figue, il y a tout un paquet. Donc voilà, quelques figues. La plus grosse figue, la plus juteuse, c'est l'amour. Mais après, il y a la joie. Ceux qui s'aiment là. Récolteront avec cri de joie. Il y a la paix. Shalom. C'est Irène là en grec, mais shalom en hébreu. Shalom. Donne-moi la paix, Seigneur. C'est d'avoir la paix dans l'âme. C'est que tu as fait tes larmes, tu as fait ton deuil. Maintenant, tu entres dans une nouvelle saison. La patience. Et si ça dure, d'accord, sois patient. Sois encouragé. La bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Ah, Seigneur. Seigneur, applique toute cette réalité de Jésus sur mes ulcères. Parce que je ne veux pas mourir. Je veux vivre. Et je sais, Seigneur, que j'ai semé en larmes. Mais ceux qui sèment en larmes, récolteront avec cri de joie, priant. Seigneur, merci pour mes frères et sœurs ici. Tu vois toutes les larmes semées. Et vous connaissez toutes les larmes que vous avez semées. Et je ne peux pas minimiser ces larmes. Hein. Les fins sont réelles et les larmes sont réelles. Parce que l'amour est réel. Voyez combien il aimait. Voilà. Mais sache qu'en pleurant, Dieu pleure avec toi, que tu n'es pas seul. Je pense que la pire chose, c'est d'être seul dans nos larmes. Mais comme Patrick a dit à Pascal, Dieu est avec moi. Dieu est avec toi dans tes larmes. Même ces 16 ans qui durent longtemps, Dieu est avec toi. Et sache que ces larmes faut pas avoir honte de les avoir pleurés, et même de les pleurer toujours. Mais sache que ces larmes, c'est les vraies larmes pour une vraie fin de 16 ans, mais c'est des larmes qui enfantent une nouvelle 16 ans de ta vie. Et Seigneur, commence quelque chose ce matin. Que ce frémissement du Saint-Esprit soit en nous. Que ça soit un frémissement pour une nouvelle 16 ans. Un frémissement où tu vas ajouter de belles choses à chaque personne ici, à chaque vie, à chaque famille. Tu vas ajouter des relations, tu vas ajouter des ministères, tu vas ajouter les emplois, tu vas ajouter des prières, toutes sortes de choses, tu vas ajouter de l'amour, Seigneur. Merci. Seigneur, applique des figues aussi maintenant, fruits de l'esprit, sur nos ulcères, sur nos déceptions, sur nos colères, sur nos trahisons. Seigneur, on est vrai, c'est pour ça qu'on pleure aussi, mais aide-nous à vider tout ça. Mais Seigneur, applique la figue, les figues, ce paquet de figues qui est le fruit de l'Esprit. Saint-Esprit, viens, guéris ma vie. Seigneur, mets le caractère de Jésus en moi. Au nom de Jésus. Amen.